Voilà, donc maintenant nous passons aux questions. Vous aviez en réserve des questions. Les autres, je vous l'avais dit hier pour que vous puissiez un petit peu vous préparer aussi. Donc.
Alors, je voudrais poser une question sur l'agnomètre. J'ai pris en considération la nature d'Adam avant le péché et la nature de la Vierge Marie. Voilà. Vous avez dit que la Vierge Marie est sans gnomètre. Vous avez dit que, je ne sais pas.
Elle a la gnomée, mais une gnomée qui n'est pas, qui est due uniquement au fait que sa volonté n'a pas encore atteint. La Vierge Marie a eu un cheminement. Hier, nous avons fêté la présentation de la Vierge Marie. Vous savez que ça correspond au premier acte libre de la Vierge, en fait. Quelle que soit l'affaire du temple, la Vierge n'a pas été présentée au temple comme Jésus, puisque la présentation au temple, la présentation légale au temple, était liée au premier-né masculin. Mais elle a pu être présentée au temple, et c'est probablement ça qu'il y a derrière, en ce sens qu'il y avait des jeunes filles qui étaient confiées à des femmes, comme par exemple la prophétesse Anne, qui ne quittait pas le temple. Vous voyez dans le Saint-Luc, la prophétesse Anne, elle avait été mariée quelques années, elle était restée veuve, elle ne s'était pas remariée, et elle vivait dans le temple. Et c'était des femmes qui faisaient des travaux de couture, parce qu'il y avait quand même à entretenir tout ce qui était rideaux, etc. Et donc il y avait des femmes qui étaient des consacrées, si vous voulez, dans le temple. Et c'est probablement très en lien avec le vœu de consécration de la Vierge, etc. Vous voyez, c'est un domaine qui nous reste assez mystérieux, mais dont on sait qu'il y avait quelque chose dans l'institution du temple. Et très probablement, ça explique pourquoi la prophétesse Anne vient spontanément vers elle. Elle devait la connaître quand la Vierge arrive avec l'enfant le jour de la présentation du Christ. Alors, on a fêté le 21 décembre la consécration, c'est-à-dire, on dit souvent, c'est le premier acte libre. Le premier acte libre de la Vierge, comme acte déjà de réponse à la grâce de l'Immaculée Conception, donc à une très grande grâce, très grande élection de Dieu. Et donc, mais elle va aller de seuil en seuil et de seuil de. Et ça, c'est l'agnomé, vous voyez, c'est le fait qu'elle n'est pas, elle n'a pas atteint le. Mais il n'y avait pas la concupiscence, donc il n'y avait pas les oscillations dues aux passions, au dérèglement des passions.
Par rapport à la nature d'Adam, avant le péché, je me demande si cette nature avait l'agnomètre.
Oui, bien sûr, puisqu'elle n'avait pas la vision béatifique. On quitte l'agnomètre, cet état agnomique, parce que l'agnomètre n'est pas une faculté, c'est un état de l'autodétermination, un état encore incertain de l'autodétermination. Un état personnel, mais ce n'est pas une nature, c'est une faculté. Donc, il avait l'agnomé, c'est-à-dire son vouloir son autodétermination était gnomique. Qu'est-ce qu'on veut dire? Il n'avait pas la vision béatifique. Il n'avait pas la vision béatifique. C'est pour ça que je vous dis, je crois qu'en affirmant que le Christ n'avait pas l'agnomé, Maxime affirme implicitement qu'il avait la vision béatifique. Parce que c'est vraiment ce qui fait que. C'est quand on connaît le bien ultime de manière immédiate qu'évidemment on ne peut pas avoir de gnomé parce que la volonté est fixée indéfectiblement dans ce bien que l'on voit.
Ma question c'est, quand on considère le Christ comme vous voulez dire là, j'ai l'impression que son humanité est tellement au-delà de la mienne que je me demande, je suis plus à l'aise à le considérer comme ça, comme Dieu, que comme homme.
C'est-à-dire que c'est une humanité qui n'a pas de personnalité humaine. Je crois qu'on n'a pas réfléchi sur ça. En fait, on suppose une personnalité humaine, en fait, très souvent, dans Jésus. Or, la personnalité de Jésus, sa personne, c'est être le Fils éternel du Père. Donc, ce n'est pas du tout une humanité. Nous sommes des personnes humaines, même la Vierge Marie qui allons vers notre perfectionnement, notre sanctification, etc. Le Christ est un de la Trinité qui descend vers nous et qui, pour nous assumer, prend une nature humaine, mais c'est une nature qui est instrumentale, justement, qui n'a pas, elle, à chercher sa sanctification. Tout ça lui est donné d'entrée de jeu. Et ce que nous voyons dans le Christ, c'est un cheminement de perfectionnement instrumental et sacerdotal, mais pas... Que voulez-vous que ça apporte au Fils de Dieu d'être dans la nature humaine pour lui? Je veux dire, ce n'est pas un plus. Ce n'est pas un plus. Il s'est entièrement pour nous et pour notre salut, pour nous les hommes et pour notre salut, descendu du ciel. Mais si on veut mettre dans le Christ un cheminement ascendant au niveau personnel d'une sanctification progressive, etc., alors on va petit à petit lui donner la foi et ceci et cela, et on ne s'en sort pas. On s'en sort pas. Mais effectivement, la tradition orientale est plus à l'aise parce qu'elle accepte beaucoup plus la dimension apophatique du mystère, c'est-à-dire de dire, ben oui, effectivement, la volonté, comment s'autodéterminer la volonté du Christ, reste pour moi un mystère. Aucun homme ne se détermine comme ça, parce qu'aucun homme n'est le Fils de Dieu fait homme. Il est totalement singulier, c'est pas un silence anthropos, ce n'est pas un pourus homo, c'est Dieu fait homme, c'est le Fils de Dieu fait homme.
Considérant le Christ, la Vierge Marie et Adam, comme le disait le Père Camille tout à l'heure, est-ce que du coup, il est juste de ne dire que du Christ qui ne pouvait pas pécher, dans le sens où la Vierge Marie, même conçue sans péché, d'une certaine façon se retrouvait un peu dans la même situation qu'Adam.
Et Adam a péché.
Aurait pu, mais n'a pas.
Oui, n'a pas. Effectivement, mais elle aurait pu. Vous savez que en scolastique, on avait formulé les choses comme ça. Christus non posse peccare. Maria posse peccare. Et je vous laisse compléter, nos. Nos, qu'est-ce qu'on dit pour nous? Non, possibus, non, pécaré. Et oui, au moins véniellement. Nous les sommes, messieurs. Au moins véniellement. Seule Marie et Panagia, toute sainte. Seule Marie n'a jamais péché. Mais les autres, au moins véniellement, tout le monde a péché. Le confesseur de la petite Thérèse lui a dit qu'elle n'avait jamais péché mortellement. Il lui a jamais dit qu'elle n'avait pas jamais péché véniellement.
Et Adam, on ne pourrait pas dire possédum pécaré. Il pouvait ne pas pécher. Mais là,
Adam, oui.
C'est pas possédum pécaré.
Adam, ah oui, je ne l'ai pas ajouté, Adam, alors on peut mettre effectivement. C'est, mais quand on dit possède un pécaré, c'est qu'il possède pécaré aussi.
Oui.
Il est un peu dans la même situation que la Vierge.
D'accord.
Si on peut ne pas pécher,
on peut pécher.
Ça veut dire qu'on est, voilà, on est dans la gnomée. Tandis que vous voyez, là, on est dans une gnomée marquée par la concupiscence, qui fait que. Je vais pécher, inévitablement, en tout cas au début de la vie. Je ne dis pas qu'il y a des saints qui, à la fin de leur vie, ne pêchent plus. Hein, ça, c'est très fréquent, certainement. Mais bon, ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Ce ne sont pas des saints de vitrail d'entrée de jeu. Hein. Et on n'a pas rendu forcément un service à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en mettant en avant cette espèce de prédestination que lui a on lui avait parlé son confesseur, de quelqu'un tellement préservé qui n'avait jamais péché mortellement, etc. Du coup, parfois, on l'a faite à l'eau de rose, alors que c'est une âme très forte.
Et pour Lucifer, comment ça marche?
Aussi des carrés. Ah, maintenant,
non,
maintenant il est allé
à la vie de Paul. Parce que lui, quand même, il était dans la vision éternelle.
Mais il n'était pas dans la vision béatifique, il était bien ça dans la tête. Les anges ont été créés en grâce, ils n'ont pas été créés en gloire. Ils avaient une connaissance naturelle, angélique, très haute de Dieu, mais ce n'était pas la vision béatifique. Et donc, ils ont eu un moment de foi, d'espérance et de charité, et c'est ça le oui qu'ils ont dû donner. Et je pense que pour un ange, ça doit être, saint Thomas parle même d'une mort des anges, parce que pour un ange, c'est encore plus terrible de devoir renoncer à sa très haute connaissance naturelle pour basculer dans un acte d'abandon à Dieu. Vous voyez, c'est le danger de l'orgueil est certainement plus grand quand on est plus haut. C'est le problème de Lucifer. Oui.
Mais aujourd'hui, le diable, est-ce qu'il, quand il fait le mal, est-ce qu'il y voit un bien? Parce que sa volonté, naturellement, oui, est tournée vers le bien.
Oui, il voit un bien.
Il croit faire le bien
qui est, né, qui est là, si vous voulez. Dans l'affirmation de l'autodétermination, il y a un bien de la nature, hein, et donc et avec tout ce qui en découle aussi au plan de d'un ange, c'est-à-dire que Dieu lui a laissé tous ses pouvoirs angéliques. Tout ça, c'est en soi, c'est un bien, mais il en fait un très très mauvais usage, évidemment.
Mais est-ce qu'il croit servir Dieu? Est-ce qu'il a cette connaissance que le bien est au final en Dieu, et ça, il l'a pas oublié, il le sait. Et pourtant, et il pose des actes qu'il considère comme bien. Est-ce que il se ment lui-même en disant qu'il sert Dieu, ou est-ce qu'il a une rébellion consciente?
On a l'impression, mais là, j'entre dans quelque chose. J'ai écrit des choses sur ça dans mon livre Dieu sans idée du mal. Quand on lit le prologue du livre de Job, vous voyez, Satan vient faire sa cour à Dieu parmi les anges. Il n'est pas si à part que ça. Il est là et vient faire sa cour. Et au fond, quel est le raisonnement que tient Satan devant Dieu? C'est de dire, tu as tort de parce que Dieu lui donne Job en exemple, et tu as tort parce que si tu me laisses le tenter, tu verras ce que vaut sa fidélité. Il va te maudire. Donc en fait, il y a une jalousie, vous voyez, de ce que dit le livre de la sagesse. Il y a une jalousie que les pères ont dit que c'était le fait que Dieu avait demandé aux anges de servir cette petite créature spirituelle incarnée qu'est l'homme et qui pourrait les dépasser même en vision béatifique, etc. Ça, c'est, il n'a pas supporté en quelque sorte, il en est devenu jaloux et du coup, voilà, il s'est fermé à toute la dimension surnaturelle.
Donc il pêche contre l'économie divine, en fait.
Oui, de toute façon, voilà, c'est le péché originel, que ce soit de l'ange ou de l'homme, c'est un péché sur le comment dire, le... Et quand Satan dit à Ève, mais pas du tout, mangez de ce fruit et vous deviendrez comme des dieux. C'est ce que Dieu voulait faire. Mais pas par la connaissance du bien et du mal, par l'obéissance, etc. Donc, c'est une révolte contre la pédagogie divine, en fait. Comme si, au fond, on savait mieux que Dieu comment atteindre notre fin ultime. Mais en même temps, sa fin ultime, il ne peut, dans l'enfer, les damnés désirent la fin ultime de Dieu. C'est inscrit dans leur être. C'est ça, d'ailleurs, qui fait qu'il y a un enfer. S'il pouvait être complètement dans le mal, je dirais, il n'en souffrirait pas. Mais il y a une torsion entre leur être qui est bon, qui a été créé par Dieu, avec un appétit naturel bon, et puis les choix qui sont en contradiction avec ça. D'où toutes ces souffrances, ces feux de l'enfer, il est là, métaphysiquement, il est là dans cette distorsion. Oui.
Sur le dessin bienveillant, notamment sur la mission visible, la mission invisible. Du coup, vous nous avez dit que l'incarnation du Fils est due au péché. Donc, fait la part de l'état de justice originelle, donc c'est un moyen. Alors maintenant que le fils, rentré dans notre humanité, s'est incarné, est mort, a été ressuscité, et à l'ordre du Père maintenant, donc sa mission visible a accompli tout ce qu'il faut pour que la mission invisible puisse s'accomplir en nous. C'est-à-dire que le Verbe, l'Esprit, puisse nous permettre notre adoption filiale avec le Père. La question que je me pose, c'est aujourd'hui, pour nous, quel est le statut de l'humanité du Christ aujourd'hui? Est-ce que finalement il n'y a que le Verbe qui agit en nous par la mission invisible, l'humanité, ou est-ce que l'humanité agit en même temps parce qu'il y a une hypostase composée?
Alors, ça nous amène déjà dans la question de la divinisation. En fait, c'est ça, Thomas, dans la question 43 de la prima part, c'est-à-dire sur les missions invisibles, qui répond à ça. L'humanité du Christ nous recrée, donc elle nous donne l'habitus de grâce qui, dans le Christ, découle de son mode d'exister personnel comme fils de Dieu. C'est un habitus de grâce qui fait de nous des fils adoptifs. Cet habitus de grâce va créer la capacité pour notre intelligence et pour notre volonté surnaturalisée dans la foi, ultimement dans la vision, pour l'intelligence et pour la charité déjà de cette vie, d'atteindre Dieu, toucher Dieu. Et c'est là que se font les missions invisibles. C'est en fait cette union opérative que c'était la mission invisible du Fils et de l'Esprit. Alors, si vous voulez, quand on prend les choses du côté de la causalité dispositive, de la capacité qui se fait en nous, tout vient de l'humanité du Christ. C'est l'humanité du Christ qui nous donne cette capacité nouvelle, cet habitus, cette capacité nouvelle d'entrer dans la connaissance et l'amour de Dieu. Connaissance proprement sur l'application de l'amour de Dieu. Mais si je regarde ensuite le terme des actes surnaturalisés de l'intelligence et de la volonté, c'est-à-dire ultimement l'acte de vision et l'acte de charité, il se termine aux personnes divines. L'acte d'intelligence dans la vision se termine au Verbe. Et dans le Verbe, c'est la connaissance de la Trinité. Et l'acte de charité se termine au Saint-Esprit. Et donc, on entre dans l'amour trinitaire, dans la personne amour. Elle ne se termine pas à l'humanité du Christ. Vous voyez, on le voit très bien dans l'union, dans la vision béatifique. L'objet de la vision béatifique, ce n'est pas l'humanité du Christ. C'est la vie trinitaire elle-même, sans aucune médiation créée. Mais la disposition du sujet qui voit Dieu vient entièrement de l'humanité du Christ. Donc l'humanité du Christ reste toujours médiatrice au niveau dispositif, au niveau de la capacité de grâce, du lumen glorié, en l'occurrence de la lumière de gloire, qui est un habitus le plus parfait de la grâce. Mais elle n'est plus, comme elle l'est dans la foi, médiatrice objectale, comme objet intermédiaire entre le croyant et Dieu. Tant qu'on ne voit pas Dieu, l'humanité du Christ reste aussi médiatrice, en quelque sorte intermédiaire entre Dieu et moi. Dans la vision béatifique, elle n'est plus intermédiaire entre Dieu et moi dans l'acte de mon intelligence et dans l'acte de la charité non plus. Mais c'est d'elle que je reçois la capacité. Donc, et ça reste une médiation éternelle. C'est le sacerdoce éternel du Christ. Donc nous voyons Dieu par le Christ, mais non pas à travers le Christ comme objet intermédiaire entre nous et Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ainsi?
Aujourd'hui, jusqu'à la vision béatifique, l'humanité du Christ
restera toujours intermédiaire comme objet de foi. Puisque le Christ est l'expression parfaite de la parole de Dieu révélée. Mais une fois que le Christ devient tout en tous, à ce moment-là, il cesse d'être entre moi et Dieu, mais parce qu'il m'habite complètement et il me rend capable d'entrer dans la relation même que lui, comme fils, a avec son Père dans la communion de l'Esprit.
Est-ce qu'on peut dire aussi qu'avec l'ascension, donc il y a une humanité qui est pleinement glorifiée, l'humanité du Christ est pleinement glorifiée, et donc on peut dire aussi que d'une manière instrumentale, elle donne l'Esprit Saint, elle envoie l'Esprit Saint.
Ah oui.
Et donc, sur l'envoi de l'Esprit Saint, ce sens-là, passe toujours par l'humanité du Christ.
Toute la grâce, bien sûr. Je raisonne par mode de... Puisque le Christ le fait même pour la gloire, même pour le lumen gloriae, a fortiori, bien sûr, toute la grâce, toute la disposition de grâce dans notre vie terrestre, évidemment, vient entièrement du Christ. C'est la grâce capitale qui inclut le lumen gloriae. Oui.
Vous avez insisté sur...
Alors, excusez-moi, j'ajoute juste une chose. Ça ne veut pas dire que, à la résurrection, nos yeux ne verront pas le corps glorieux du Seigneur. Et que ça sera mais c'est une gloire accidentelle, si vous voulez. C'est pas la vision béatifique. C'est ce qu'ont vu les apôtres sur le Tabor. C'est pas directement la vision béatifique. La vision béatifique ne connaît pas de médiation créée. Ça, c'est un rejaillissement de gloire qui sera pour le contentement et le bonheur de notre vision corporelle, je dirais. Et ça sera très imbriqué parce qu'en même temps, on verra avec les yeux de l'esprit, si j'ose dire, Dieu dans son essence trinitaire, et en même temps, on verra avec les yeux du corps l'humanité glorifiée du Seigneur, du Christ. Et là, effectivement, pour les yeux de la chair, elle sera objectale, on le connaîtra. Mais c'est pas. Parce que souvent, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens pensent que la vision béatifique, c'est une vision taborique, en fait. C'est-à-dire qu'on verra le Christ dans la gloire de son corps, et que donc, à travers, on verra Dieu, en quelque sorte. C'est pas cela. C'est pas ça, parce que on perdrait l'élément face à face de la connaissance divine. Il n'y a plus d'intermédiaire humain. C'est ce qui fait l'élément formel de la vision. Alors je sais bien que pour les orthodoxes, c'est pas tout à fait ça, hein, avec toujours cette distinction entre les énergies divines et l'essence, alors ces énergies irradient à travers le corps du Christ, etc. Mais c'est des choses qui soulèvent beaucoup, beaucoup de problèmes, hein, aujourd'hui dans la théologie orthodoxe.
Et juste sur la question du Père Gilles, est-ce que les orientaux disent que l'Esprit procède du Père par le Fils, nous du Père et du Fils, est-ce que le fait qu'à l'ascension on reçoit la grâce de l'Esprit par le Fils, ça rejoint ça ou...
Oui, bien sûr. De toute façon, les orientaux n'ont jamais, les orthodoxes, n'ont jamais mis en doute que le Saint-Esprit nous est envoyé par le Fils, par le Christ, par le Fils fait. C'est-à-dire au niveau de l'économie, ils ne l'ont jamais mis en doute. Ils le mettent en doute dans la théologie, c'est-à-dire dans l'immanence, dans la Trinité immanente.
Oui. Vous avez dit que le Christ, l'humanité du Christ pouvait nous sauver parce qu'il n'était pas un individu clos sur lui-même. Alors du côté d'Adam et de la transmission du péché, comment est-ce que cette transmission s'est faite? Est-ce que c'est purement...
Il y a déjà une capitalité d'Adam, mais c'est une capitalité au niveau, comment dire, il y a des choses excellentes chez le François Daguet dans son livre sur ça. Si l'humanité était restée en justice originelle, on peut se poser la question, est-ce qu'Adam aurait été médiateur de grâce pour sa descendance, puisqu'il a été, il a été cause de la perte de la grâce? Est-ce que ça ne veut pas dire donc qu'il aurait été médiateur? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'évidemment, c'est là où on voit la différence entre Adam et le Christ. C'est que saint Thomas, on prend les pères, hein, dit que les enfants qui seraient nés en justice originelle d'Adam et d'Ève et de leur descendance seraient nés en état de justice originelle. C'est-à-dire, évidemment, rien ne s'opposant, Dieu aurait créé leur âme en état dans une grâce de justice originelle. Est-ce que ça veut dire que c'est les parents qui l'auraient transmis, qu'Adam était tête de la grâce comme est le Christ, vous voyez? En fait, non. Parce que ça, c'est seulement possible si on est, la tête est divine. Il faut que le Christ soit Dieu pour pouvoir être cause de la grâce. Comment Adam a-t-il pu nous priver de la grâce alors qu'il n'est pas cause de la grâce? Eh bien, c'est que par le péché, l'union de l'homme et de la femme, donc l'engendrement corporel, la procréation, c'est par là que s'est transmis cet habitus mauvais, en quelque sorte, le désordre des passions, etc. Et donc, Dieu ne peut plus créer une âme, l'âme de l'enfant, en état de justice originelle et en grâce. Parce que l'âme est créée pour le corps et que le corps nous rattache à cette solidarité qui vient d'Adam. Mais c'est par un biais dispositif. C'est pas qu'Adam et Ève transmettaient la grâce qu'ils avaient reçue. Non. La grâce, ils l'avaient reçue pour eux. Mais ils avaient reçu le fait que s'ils péchaient, il faussait l'humanité de telle manière qu'elle devienne, par le biais du corps qu'ils auraient conçu, elle devenait comme fermée à la grâce. Et du coup, Dieu ne peut pas créer les âmes en grâce. Et c'est comme ça que nous venons à la vie. Parce que l'âme ne vient pas de nos parents, l'âme vient directement de Dieu. Dieu voudrait créer notre âme en état de grâce, c'est dans son dessein. Mais il y a un obstacle, c'est que cette grâce est pour un corps qui nous rattache à toute parenté, un genre humain, qui est lui pécheur. Et donc, nous venons à la vie, nous sommes conçus dans le péché.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, parce que c'est ce qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps, mais on ne peut pas imaginer la chute sous l'angle, comment dire, du lieu, c'est-à-dire Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, donc nous naissons dans une... Nous avons chuté dans la matière d'une certaine manière, donc nous naissons dans un lieu...
Pas dans la matière, quand même, on était dans la matière.
Dans la matière, mais je veux dire, la matière a été alourdie d'une certaine manière.
Ah oui, alors un corps, comme dit Paul, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort. C'est par le corps que se transmet le péché originel. Que se transmet quoi? Une humanité déréglée qui donc ne peut pas... l'âme ne peut pas être forme, l'âme en grâce ne peut pas être forme de ce corps. Et donc elle n'est pas créée en grâce. À cause de l'union à son corps. Pour qui elle est créée.
Mais c'est pas la matière en tant que telle,
c'est un habitus. C'est le péché originel est un habitus mauvais de notre humanité par le biais de la continuité corporelle, par la propagation.
Est-ce qu'il en a parlé, le père Daguet?
Il en parle dans son livre sur le dessein de Dieu que je vous ai cité hier. Le dessin, la théologie du dessin divin chez Thomas d'Aquin. Dans l'édition de la bibliothèque Thomiste, hein, je ne sais pas. Collection de la bibliothèque Thomiste. Il y avait des tellement de...
Oui, je voudrais revenir sur l'instrumentalité du Christ.
Oui.
Vous avez dit qu'il pouvait y avoir un perfectionnement du Christ tout à l'heure, notamment en parlant de Hébreu, quant à l'instrumentalité, mais pas quant à l'union. Est-ce que vous pouvez développer ce perfectionnement du Christ
aux actes de l'instrumentalité,
ouais.
Pas l'instrumentalité comme telle, elle est structurelle, mais les actes vont être de plus en plus parfaits. C'est-à-dire que le Christ va aimer, va accomplir l'œuvre de Dieu de manière de plus en plus parfaite, jusqu'au sommet de cette œuvre qui est l'offrande de sa vie. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Telos, eiston telos. Et c'est le mot qu'ensuite on retrouve toujours dans saint Jean, dans la bouche du Christ, le dernier mot. Tetelestai, c'est-à-dire c'est achevé au sens de c'est la fin, c'est le dernier souffle du Christ et l'achèvement de l'œuvre.
Et en quoi il y a perfectionnement de ces actes alors?
Ben, il y a de plus en plus d'amour pour nous et pour le Père aussi, mais pour le Père en fonction de la mission. Il l'accomplit de manière de plus en plus parfaite. C'est pour ça que Jésus est tout tendu vers la croix, tout tendu vers le baptême qu'il doit recevoir, la coupe qu'il doit boire, etc. Il aspire à ça. Quel est mon désir que ce soit accompli?
Justement, cette distinction sur le perfectionnement, l'union au Père est déjà parfaite et la mission se perfectionne de plus en plus.
Oui.
Peut-être une piste pour comprendre la conscience que le Christ a de lui-même. On se questionnait là-dessus hier, mais justement, il a conscience de sa nature, le Fils de Dieu, et peut-être que cette conscience de sa mission est progressive.
Là, il faut le voir confronté au texte, mais il me semble qu'on voit déjà dès le début Jésus tendu quand il dit je me dois aux affaires de mon père, etc. À 12 ans, enfin vous voyez, je crois qu'il peut l'exprimer de mieux en mieux, mais je ne vois nulle part qu'il y ait des éléments de découverte.
Une capacité d'exprimer de mieux en mieux, c'est une certaine, même si peut-être que tout est là, mais c'est une compréhension.
Ben, c'est très important de discerner si on est dans l'ordre de quelque chose qu'il peut dévoiler de mieux en mieux, ou si tout est déjà là, ou est-ce qu'il est en train de le découvrir, voyez ? Quand même pas la même chose. Dans un cas, on est dans l'ordre de la communication, dans l'autre cas, on est dans l'ordre par rapport à lui-même. Et si lui-même, c'est le propre Fils de Dieu. Vous voyez, les pères de l'Église raisonnent comme ça. Ils disent, à la crèche, le Verbe ne peut que vagir. Et à l'agonie sur la croix, il ne peut que pousser un grand cri. Mais c'est toujours le Verbe qui est là. Et donc, c'est ça qui fait que saint Thomas dit, ben voilà, regardez le texte, c'est pas seulement saint Thomas, c'est le texte de l'Épître aux Hébreux. En entrant dans le monde, le Christ dit, tu ne voulais ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as formé un corps. En entrant dans le monde. C'est-à-dire ce texte du psaume, texte d'un prophète, du Messie, là, il transmet en entrant dans le monde. Et ça amène les pères, et saint Thomas, etc., à dire, le Christ, dès sa conception, était en acte d'offrande. Parce qu'il a une âme, donc une âme qui a une capacité d'intelligence et de volonté. Et dans le cas du Christ, effectivement, c'est beaucoup moins dépendant. Autant la communication, l'expression pour les autres hommes dépend du corps et de l'évolution du corps, autant dans sa relation avec Dieu, dès que la capacité naturelle d'intelligence et de volonté est posée, il y a déjà cet état d'offrande qui est chez lui ontologique. C'est-à-dire, il est venu pour cela. Voyez, c'est ce qu'il dit quand il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. » C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est quelque chose qui me tient aux entrailles. C'est pas quelque chose qui survient en plus accidentellement, en quelque sorte. Mais c'est vraiment, ou quand il dit, quand Pierre veut le protéger au jardin de Gethsémani, la coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas? Ou quand dans Saint Jean aussi, il dit « Père, sauve-moi de cette heure », mais c'est pour cette heure que je suis venu. Vous voyez, la mission, elle est pour cette heure depuis l'origine. Alors, évidemment, ce que nous voyons comme christologie ascendante est en fait une expression de plus en plus parfaite de la connaissance et de la volonté, mais qui est plus un perfectionnement dans les objets successifs qui vont être choisis que le fait que ce soit quelque chose de nouveau, comme pour nous qui découvrons des appels de Dieu successivement dans notre vie, etc. Il y a une sorte d'unité fondamentale dans le Christ et dans sa mission qui est structurelle dans l'incarnation. Mais là aussi, si ce qu'on veut, c'est comprendre, en nous mettant à la place du Christ, à mon avis, on part sur une mauvaise piste. Mais je sais bien que les Occidentaux ont beaucoup de mal à renoncer à cette projection, à cette christologie projective. Mais ça amène à faire un Christ romanesque. C'est difficile d'être devant, d'accepter que le Christ est mystère. Et pourtant, regardez, on sent que les apôtres l'ont senti comme très mystérieux. Autant lui pénètre, comme dans du beurre, j'allais dire, dans l'humanité des autres, autant l'inverse n'est pas du tout... on sent qu'à un certain moment, justement, ils avaient peur, etc. Pierre lui dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Ils sont devant la transcendance. Regardez, l'évangile de Saint Jean le suggère beaucoup à travers les « je suis » du Christ. Si vous ne croyez pas que « je suis », vous mourrez dans votre péché. Pour les Juifs, c'est le nom même de Dieu. C'est « je suis celui qui suis », c'est Exode 3,14. Hein. Et vous le voyez, y compris au moment où on l'arrête à Gethsémani. Jésus dit « qui cherchez-vous » dans Saint Jean ? Jésus de Nazareth, alors ego eimi, je suis, il tombe à la renverse. Et de nouveau, il leur repose la question, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, à ce moment-là, on a de nouveau ego eimi, mais cette fois-ci, il faut traduire par c'est moi. Parce que là, il se laisse arrêter. Vous voyez, c'est tout ce mystère entre le je suis et le c'est moi. Mais le c'est moi... entièrement sous-tendu par le je suis. Et c'est, qu'est-ce qu'il veut montrer? Ben, ce qu'il dit dans les synoptiques, si j'avais voulu, mon père aurait envoyé des légions d'anges pour me protéger, etc. Donc en fait, je me livre totalement volontairement. Quoi. C'est pas ma vie nulle la prend, c'est moi qui la donne, j'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Voyez bien que tout ça n'est pas du mode d'exister de nous autres.
Hein. Oui. Vous avez expliqué...
Ah, pardon, vous avez demandé la... Attends, je vous donne la parole.
Vous avez insisté sur les deux premières œuvres sur le fait que le Christ s'incarnait pour sauver les hommes. Donc là, je comprends très bien pour nous les hommes... pour notre salut descendu du ciel. Par contre, ça fait que je me pose la question du sens du « pour nous ». Qui est relié par le « et » et qui ne signifie pas forcément un lien.
Je pense que le « et » est là ce qu'on appelle un « et », un « kai » épexégétique, c'est-à-dire qu'il doit être traduit par « c'est-à-dire ». Pour nous les hommes, c'est-à-dire pour notre salut. C'est un et explicitatif. Ça veut dire pour notre salut, pour nous les hommes, c'est-à-dire pour notre salut. L'explicitation de la première membre de phrase, vous aviez demandé la parole.
Vous avez expliqué qu'on ne pouvait pas dire que Dieu souffre, Dieu est mort. Mais est-ce qu'on peut dire le Verbe éternel, ou un de la Trinité, a souffert
dans la chair.
Dans la chair.
Dans la chair.
Juste le Verbe éternel incarné.
Dans la chair. C'est-à-dire, la souffrance, elle a lieu dans la chair. Mais cette chair appartient au Verbe de Dieu. Donc, ça exprime quelque chose que fait le Verbe de Dieu.
On le verra après. C'est ce qu'on appelle la communication des idiots. C'est-à-dire que, à cause de l'union hypostatique, ce que l'on attribue à la nature peut être attribué à la personne. Donc, je peux dire
que la personne possède cette nature. Donc cette mort, qui est une mort, qu'est-ce qu'on appelle mourir ? La séparation de l'âme et du corps. Dans la mort du Christ, son âme et son corps se séparent. Mais ils restent l'un et l'autre en hypostasie dans le Verbe. Et donc le Verbe meurt dans la chair. C'est-à-dire que pendant les heures qui vont depuis la mort du calvaire jusqu'à la résurrection, le Verbe assume son humanité, son âme et son corps, mais qui ne sont plus unis entre eux. Et ce qui fait que il va, par son âme, il va visiter les justes de l'ancienne alliance, du temps qui a précédé sa venue, et dans son corps, il tient son corps incorruptible dans le tombeau. Donc, c'est ça la mort. Ça ne veut pas dire que le Verbe est mort. C'est que le Verbe est le sujet d'une humanité qui est morte. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez ? Sinon, on joue sur les mots et on finit par dire des choses qui sont fausses.
Aujourd'hui, Jésus, donc, il est dans la gloire, il ne souffre plus. Quelle est la portée d'une spiritualité qui dit qu'il faut consoler le corps du Christ ?
Je pense que c'est dans la perspective du fait que le Christ n'est pas que la tête, il est aussi son corps. C'est dans la même perspective que Pascal dit le Christ est à l'agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne l'est plus dans sa tête, mais il est dans son corps. Et nous sommes son corps. Et donc, la consolation du Christ est une consolation par rapport à l'œuvre de la rédemption. C'est un acte co-rédempteur, en fait. Hein. C'est s'associer à la Pâque qui se prolonge. Hein, avec agonie, etc. Pensez à tous les martyrs, à tout le combat spirituel qui se vit dans le corps du Christ, qui fait que la Pâque est achevée dans sa tête, mais pas dans le corps, pas dans Christ total.
C'est la conversion de Paul. Je suis celui que tu persécutes.
Oui, tout à fait.
Mais est-ce que vraiment on peut dire que seul le corps souffre ? On ne peut pas dire une forme de souffrance spirituelle depuis le Christ.
Ah non, l'âme souffre aussi, bien sûr que l'âme.
Mais l'âme, regardez, en tant qu'esprit, je veux dire. Parce que, effectivement, le changement, le fait de subir la passion, c'est propre à ce qui est matériel, ce qui est corporel, mais en même temps, il y a aussi une forme de souffrance spirituelle, auquel cas. Et d'ailleurs, Jésus dit « Mon âme souffre en mourir », et il ne dit pas « Il n'y a que mon corps qui souffre ».
Non.
Donc le Christ souffre dans sa chair.
Mais il est glorifié maintenant dans son corps et dans son âme. Il ne faut pas croire qu'il serait glorifié dans son corps et que son âme pourrait souffrir au sens du Gethsémani.
Bien sûr, mais si aujourd'hui on dit que son corps est encore à l'agonie jusqu'à la fin du monde, est-ce qu'on peut...
Son corps mystique. C'est membres. Ses membres, pas son corps individuel. Son corps mystique.
Mais lui ne subit rien. Lui ne subit rien. Donc on ne peut pas faire de mal au Christ, il n'y a pas de... Le sacrilège, ça fait de mal à
Christ. Sacrilège, offense, alors non, il y a d'autres dimensions qui sont beaucoup plus mystérieuses, c'est l'offense que nous appelons, vous voyez, dans l'acte de contrition, « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. » Parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable et que le péché te déplaît. Offenser, déplaire. On dit bien quelque chose. Ça, c'est... Alors, c'est... Bon, mais c'est tout un autre chapitre. J'ai essayé d'en traiter dans le monde de Dieu sans en faire du mal. C'est-à-dire que on ne peut rien enlever à Dieu, puisque Dieu est parmi les lettres, mais même, je dirais, dans ce qu'il a voulu faire pour nous, c'est un acte de pure gratuité, d'agapé. Mais qu'est-ce que c'est que l'offense à l'agapé? Je ne peux rien enlever à Dieu, mais je peux m'abîmer moi-même. Or, je suis l'objet de l'agapé divin. Et quand je m'abîme moi-même, par mes péchés, ou les autres, j'entrave quelque chose, j'empêche quelque chose que Dieu veut donner. Donc il y a une certaine contradiction dans la volonté divine, une volonté que Dieu a voulu comme conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle peut être contredite. Ce n'est pas une volonté absolue, c'est une volonté conditionnelle. Et donc je vous le donne, mais ça ne fait pas plaisir au bon Dieu. Mais ça ne peut rien enlever à sa béatitude. Mais attention de ne pas considérer la béatitude divine de manière trop humaine, comme un état simplement de bien-être, comme ça. Il y a de très belles pages de Maritain que j'ai glanées à la fin de mon livre Dieu sans idée du mal sur ces questions. Je pourrais vous y reporter. Mais ça ne peut pas être un manque. Un manque ontologique. Ça ne peut pas être ça. Donc, c'est au niveau de la volonté et du terme de la volonté gratuite, de l'amour d'agapé, de Dieu, qui sont ces créatures. Donc, blesser ces créatures, c'est détruire quelque chose de ce que Dieu veut donner dans son dessein. Et ça, c'est une offense. Et pas seulement une offense... à l'honneur de Dieu, à sa justice, etc., mais une offense à son amour. Mais ça n'enlève rien à Dieu dans sa béatitude essentielle. Vous savez que ça avait beaucoup marqué Léon Blois, les Maritains, etc. C'était l'apparition de la Vierge de la Salette, auquel ils étaient très attachés, qui est apparue en larmes aux enfants de la Salette. En leur disant, il y a si longtemps que je pleure pour vous, ou quelque chose comme ça. Ils ont compris que justement, il y avait quelque chose, un mystère en Dieu, que voilà, cette offense à l'amour gratuit. Comme c'est un amour gratuit, il est gratuit, donc ça ne peut rien enlever à l'être divin. Mais on enlève quelque chose à quelque chose que par pure miséricorde, il voulait donner. Et ça, c'est quand même terrible. Et c'est si terrible que c'est pour nous faire comprendre ça que Jésus a vécu toute la souffrance qu'il a vécue au niveau passible de son humanité, qui elle est passible. Pour nous faire comprendre ce que représente pour Dieu l'offense à l'amour miséricordieux. D'une certaine manière, si vous voulez, le premier sang que Jésus a versé à Gethsémani, il n'est pas venu par des coups extérieurs. C'est la sueur de sang. Et la sueur de sang, elle est venue parce qu'il a vu la fermeture des cœurs à son amour miséricordieux de Dieu et le sien comme rédempteur. Et ça, ça lui a provoqué une angoisse épouvantable. Justement, mon âme est triste par mourir. C'est pas seulement la peur de la mort, c'est ça. Je dirais que c'est relativement secondaire par rapport à cet autre aspect. Et donc, c'est venu de l'intérieur. C'est un sang qui est venu d'une souffrance intérieure qui est elle-même au plan de la nature passible comme un reflet de quelque chose de beaucoup plus mystérieux pour lequel nous n'avons pas de nom, d'attribut, etc., et qui est l'offense de l'amour gratuit, l'offense de l'agapé. Je pense que ça, tant que nous ne serons pas au ciel et que nous n'aurons pas l'expérience dans la vision béatifique de ce qu'est l'agapé à l'état pur, nous ne serons pas, parce que automatiquement nous le retraduisons en termes de manque. Et donc, à ce moment-là, l'agapé n'est plus agapé, n'est plus pur amour. Dès que j'introduis un manque, c'est que donc Dieu a besoin de la création, etc., pour s'accomplir. Et donc, quand la création ne répond pas, ça lui enlève quelque chose, etc. Mais c'est pas ça. Et donc, voilà, c'est un quelque chose d'ignominé, dit Maritain. C'est quelque chose d'absolument mystérieux en Dieu, et qui tient au fait qu'il est inséparablement acéité, donc esse subsistens, et acte pur d'amour, amour purement gratuit. Et donc la passibilité de Jésus est l'expression en termes d'humanité passible de quelque chose de beaucoup plus mystérieux qui est du côté de Dieu. Mais dès qu'on le rend en termes de souffrance, on se remet dans la passibilité, donc dans le fait qu'à ce moment-là, on tire quelque chose à Dieu, donc Dieu n'a pas créé par pure gratuité, quoi. Mais par un certain besoin, donc il a une frustration. Mais si vous, dans l'expérience que nous avons de l'agapé, ici-bas, nous voyons que plus nous avançons en perfection dans la charité, plus la charité devient effective et moins affective. Ça, je l'ai compris avec une maman auprès de son enfant qui s'est trouvé pendant 48 heures, il avait eu un choc sceptique, et il a été entre la vie et la mort pendant 48 heures. Et donc, elle a, pour ainsi dire, comme tenu en vie par sa présence, puisque, vous savez, quelqu'un qui est comme ça entre la vie et la mort, la dimension psychologique est très importante, de sentir qu'il y a cet amour qui le tient. Et quelqu'un, pas malin, lui a dit « comme vous devez souffrir » à la mère. Et elle a répondu du tac au tac « souffrir, je n'en ai pas le temps ». Ça serait lui enlever à l'amour effectif quelque chose, hein, que de me mettre à pleurnicher. Ça ne serait pas aimer plus, c'est aimer moins. Donc là, on a comme une sorte d'entrevision comment quand l'amour devient le plus oblatif, mais c'est asymptotique, parce que pour une créature, ce n'est pas possible. Il restera toujours de la souffrance, en tout cas dans ce monde. Mais c'est vrai que plus on est dans l'autre, moins on est en soi, et donc moins on est dans le ressenti, et plus dans le don de soi. Ce n'est qu'une sorte de lointaine entrevision de ce que peut être effectivement. D'une certaine manière, les seules cicatrices de l'amour blessé de Dieu, c'est le surcroît de grâce qu'il introduit dans l'humanité. C'est nous péchons et il répond par de nouvelles grâces, etc. C'est la seule trace. C'est comme si vous preniez de l'eau à un jet. Ça ne laisse pas de trou parce que c'est un jet. Donc il donne. Donc vous enlevez, mais c'est un état de don. Donc vous ne pouvez rien enlever au jet quand le jet est puissant. Mais tout ça, sont des approches.
Est-ce qu'on peut dire que ça blesse Dieu, non pas dans le sens que lui, ça introduit un manque en lui, mais dans le sens où ça introduit un manque en nous?
C'est ça. Et qu'il nous aime, lui. Tout à fait. Je donne de nouveau une approche métaphorique, un peu. Supposer des parents dont le fils devient un criminel et le fils les dévalise, les envole tout leur argent. Qu'est-ce qui blesse vraiment ces parents s'ils sont vraiment des parents aimants? Est-ce que c'est l'argent qu'ils ont perdu qui leur a enlevé,
ou est-ce que c'est le fait que leur fils est devenu un renard? Mais dans un cas, c'est quelque chose qu'on leur enlève, et en fait, du côté de la charité, c'est beaucoup plus la compassion, en quelque sorte, avec le fait que c'est devenu un renard. Donc là, mais ce sont des approches, parce qu'évidemment, on reste des créatures, donc... Même le fait que votre fils soit devenu un voleur vous affecte dans votre dignité personnelle aussi. Hein, ça vous humilie, ça vous... On ne sortira jamais de l'aspect besoin, activité, etc. Non, c'est comme ça. En Dieu, c'est autre chose.
J'ai quelques vagues souvenirs du livre de Varillon, mais je crois qu'il a écrit un peu dans ce sens-là, dans la souffrance de Dieu. C'est un peu la veine qui creuse.
Sans toujours se contentant parfois un peu trop de la métaphore et donc sans tracer vraiment une frontière très forte entre le fait que ça ne peut pas être de l'ordre du manque en Dieu. Mais enfin, effectivement, ils voulaient manifester qu'il y avait quelque chose et ils ont été nombreux. Je vous dis, moi, c'est avec Marita que je suis plus satisfait parce qu'en même temps il maintient très fortement la séité divine et donc il pousse les choses un peu dans à la fois il ne lâche rien des intuitions mystiques et spirituelles à la Marignon et en même temps il ne veut pas céder à la facilité d'introduire à quelconque besoin. Je ne sais pas où on en est, ça va jusqu'à quand? Jusqu'à où? Jusqu'à 11h10. Mais enfin, moi, je ne sais pas s'il y a encore quelques questions. Il ne
faut pas les blesser.
Les blesser. Dans leur
attente. Dans leur attente.
Dans leur
attente.
C'est peut-être pas dans le même sens, par rapport à la mort de Jésus, notamment. Il y a diverses interprétations les théories de la mort de Dieu, tout ça.
Et parce qu'ils veulent que la mort du Christ soit la mort du Père, soit la mort de Dieu. Non, la mort du Christ, c'est la mort de sa nature humaine dans laquelle l'âme et le corps se séparent, et donc à ce moment-là, le Verbe qui reste debout et à son âme et à son corps, a une humanité qui est morte. L'âme et le corps sont séparés. Bonne continuation. Merci.